J'ai commencé le violoncelle très jeune et j'y ai reconnu une voix. Et cet élément de la voix dans le timbre de cet instrument, le violoncelle, c'est quelque chose qui jusqu'à ce jour est resté présent. Tous les patients que je rencontre évoquent cet élément de la voix. Mon grand idéal, c'est d'allier la voix du violoncelle avec le monde du soin. Je pense que la musique a une place particulièrement importante justement quand l'intellect n'est plus forcément sur le devant de la scène. Car on n'a pas besoin de comprendre la musique pour l'éprouver. Il y a aussi cette unité du temps. On a l'impression que la maladie morcelle fragmente, explose. Et le temps musical a un pouvoir d'unification temporelle, vraiment quelque chose qui rassemble. Peut-être l'essentiel de toute cette démarche qu'est le pansement Schubert, ou la musique qui prend soin, ou l'art qui vient à la rencontre de la médecine, c'est qu'il s'adresse à la partie saine, à la partie vivante, à la partie non malade de la personne malade. On est, je pense, dans vraiment le mystère que peut ouvrir cette présence de la musique, mais aussi de la beauté et de la vie et de la présence vibratoire, j'entends vie par vibration, auprès de tous ceux qui sont en présence, confrontés aux situations à haute densité humaine, aux situations auxquelles on ne peut pas se soustraire. C'est la seule chose dont on est sûr, c'est qu'on va nous aussi un jour être confrontés à la mort, mais on n'en sait rien. Mmh. On n'en sait pas plus que ça, par contre, c'est sûr que ça aura lieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on éprouve, et que parfois la musique non pas vient apporter une réponse signifiante, mais une réponse éprouvée, une réponse qui permet de continuer à vivre.
Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Parole de penseur. Dans les épisodes précédents, j'ai donné la parole à des médecins, des philosophes, des psychologues et des travailleurs sociaux. Je souhaitais aujourd'hui entendre la voix, mais aussi le son, d'une musicienne qui prend soin des autres, une musicienne qui soigne, une musicienne soignante. Lorsqu'elle n'est pas en concert à travers le monde ou auprès de ses élèves, cette musicienne soignante joue pour les personnes en fin de vie, les malades douloureux, les autistes, ou ce que l'on appelle, ou ce que l'on nomme, voire mal nomme, les déments. Elle joue et pense en même temps de ce qu'elle a appelé le pansement Schubert. Et elle nous dit, 10 minutes de Schubert égale 5 mg d'oxynorme. Schubert, mais aussi Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Rachmaninoff, Shostakovich, des airs de Puccini et de Verdi, des chansons de Piaf, Clo-Clo, Sardou, Adamo, Johnny, des valses et des tangos, des chants juifs, arabes et africains, du folklore breton, irlandais, du flamenco, des musiques de films, du gospel, du jazz, du rock, du pop, du métal. À 14 ans, elle donne son premier concert à Saint-Germain-en-Laye et joue une sonate de Giuseppe Sammartini pour violoncelle et piano. À la fin du concert, une femme vient la saluer. Cette femme a un visage blême et un turban autour de la tête. Une lumière sort de ses yeux et elle lui dit « Si vous aviez été médecin, vous m'auriez guéri. » Bonjour Claire Aupert.
Bonjour.
Je suis très heureux de réaliser avec vous ce 13e épisode de la série podcast Parole de penseur. Vous êtes donc une penseuse avec un A, car vous prenez soin des enfants et adultes en souffrance. Mais vous êtes également une penseuse avec un E, qui pensait la médecine, comme dirait Georges Canguilhem, comme un art au carrefour de plusieurs sciences. Alors Claire, je vous ai présenté très rapidement, est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus sur vous aujourd'hui ?
Donc, vous m'avez appelée musicienne soignante, et ce terme correspond bien à mon idéal d'alliance entre le soin et l'art, entre le soin et la médecine, le soin et la musique. J'ai commencé le violoncelle très jeune et j'y ai reconnu une voix. Et cet élément de la voix dans le timbre de cet instrument, le violoncelle, c'est quelque chose qui jusqu'à ce jour est resté présent. tous les patients que je rencontre évoquent cet élément de la voix. Mon grand idéal, c'est d'allier la voix du violoncelle avec le monde du soin. Et donc, à travers mon parcours, qui est à la fois musical, puisque j'ai un diplôme du conservatoire Tchaïkovski de Moscou, qui est aussi un peu philosophique, hein, puisque j'ai fait une licence et rédigé une maîtrise de philosophie à la Sorbonne, et qui est aussi avisé de soin, de prendre soin, avisé scientifique aussi, puisque cette partie de moi qui réalise depuis maintenant plus de 14 ans des études scientifiques, des études cliniques, pour essayer de quantifier, de jeter un regard le plus objectif possible sur cette alliance entre la musique et le soin. Donc mon parcours m'a menée d'une carrière de musicienne professionnelle que je poursuis à une posture nouvelle qui, je peux le dire, est ma juste place. Trouver cet espace où la musique va pouvoir aller prendre soin, voilà aujourd'hui ma posture.
Mais on n'est pas musicienne soignante par hasard. Et je dirais même que ce qui nous pousse, parfois, à choisir ces métiers du soin et de l'accompagnement, c'est aussi ce qui nous empêche de bien les faire. Surtout si on ne se questionne pas sur ces motivations profondes à accompagner les autres. Alors, qu'est-ce qui vous a vraiment donné envie d'être musicienne soignante ?
Je pense qu'à la base, mon père, qui était un médecin, artiste et musicien, était déjà un exemple en lui-même. Okay. Souvent, il jouait du piano pour ses patients. Ma mère, elle, était une artiste, une danseuse à l'âme soignante. Elle prenait soin des personnes autour d'elle, tout en pratiquant son art. Donc, c'était une première source d'inspiration. Cet idéal d'alliance entre la musique et le soin est quelque chose qui, en quelque sorte, m'est chevillé au cœur et au corps. Déjà toute petite, j'avais ce désir de jouer hors des salles de concert. Et c'est mon expérience qui m'a emmenée à droite et à gauche auprès des personnes âgées, parfois même dans les prisons, auprès des jeunes atteints de trisomie 21. Et c'est à travers certaines rencontres que je suis devenue musicienne soignante et que j'ai pu concilier et aussi de façon scientifique mettre en mots cet impact bénéfique de la musique sur la santé.
C'est-à-dire qu'un peu à l'image de votre père qui était dans le colloque singulier médecin malade, vous êtes allé rechercher ce colloque singulier ?
Je suis allée le rechercher puisque la première rencontre fondamentale qui a enraciné mon expérience de façon concrète s'est produite le jour où je me suis rendue à une conférence intitulée « Art et médecine ».
D'accord.
Et c'est là que j'ai fait des rencontres fondamentales qui ont commencé cette pratique.
Ok. Et la plupart des médecins que j'ai rencontrés dans ce podcast nous parlent de leur maître en médecine. Quel a, éventuellement, ou quels ont été votre ou vos maîtres en musique ?
Mes maîtres en musique, je les ai croisés au conservatoire Tchaïkovski de Moscou, où je me suis rendue juste avant la chute du mur de Berlin, donc jeune parisienne, avec ce rêve russe, le rêve de Rostropovitch et de l'école russe du violoncelle. Je suis arrivée dans un Moscou encore très soviétique. Et là, j'ai fait effectivement des expériences extraordinaires, en particulier avec mes professeurs de musique de chambre, qui étaient les membres du quatuor Borodine, le mythique quatuor qui a créé des œuvres, les quatuors de Chostakovitch. Donc en tant que musicienne, mes maîtres, eh bien, je les ai croisés en Russie il y a maintenant plus de 30 ans. Ils m'ont inspirée profondément dans ma démarche de musicienne, car j'y ai expérimenté le fait que la musique et la dite technique n'étaient pas deux mondes séparés. Et que dans cette approche très très vivante, eh bien la réalisation instrumentale donnait tout de suite sens à l'expression musicale. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai reçu de ces maîtres, donc en particulier du quatuor Borodine, qui étaient mes professeurs de musique de chambre et mes professeurs de quatuor. Mes maîtres plus tard, à mon retour de Moscou, mon maître premier, celui qui m'a vraiment inspiré et qui a donné forme à mes rêves d'alliance, eh bien c'est Howard Buten. Et je peux dire que c'est vraiment lui mon premier guide et inspirateur dans cette démarche de musicienne soignante. Je l'ai rencontré donc à l'auditorium du Louvre où je me suis rendue un jour pour écouter un colloque intitulé « Médecine et art ». Et dans ce colloque, j'ai vu cette personne totalement décalée, absolument incroyable, qui ne ressemblait à aucune personne que je n'avais jamais rencontrée. Et à la question que lui a posée dans l'assistance une dame, Monsieur Howard Buten, « Qu'est-ce que l'autisme ?» Vous qui êtes un grand spécialiste internationalement reconnu.
Mais qui est psychologue ?
Alors c'est un psychologue clinicien spécialisé dans l'autisme. C'est également l'écrivain célèbre de « Quand j'avais 5 ans, je l'ai tué ». Et enfin, c'est un artiste, c'est le clown Buffo sur la scène. Donc une personnalité très très complète, totalement originale. Et à cette question donc « Qu'est-ce que l'autisme ?» qui a été posée dans la salle, Howard, pendant 3, voire 4 minutes, n'a rien dit. Imaginez dans un auditoire, une personne à qui on a posé une question qui reste parfaitement immobile et silencieux, la gêne qui s'installe dans le public. Et puis finalement, il a répondu cette phrase géniale, il a dit « L'autisme, on n'en sait rien ». Et lui qui en savait beaucoup, il en savait plus que tout le monde, il avait étudié toutes les méthodes, c'était un grand chercheur et un psychologue clinicien. Eh bien, il avait cette posture qui a été très inspirante pour moi, puisqu'il a été mon premier guide, de dire que c'est à nous d'ouvrir des brèches, des chemins de communication, mais à vrai dire, c'est nous les plus perdus. Ce sont nous les plus vulnérables dans cette affaire, et qu'il faut mériter l'attention des autistes, il faut essayer d'être à leur hauteur, et c'est à nous d'ouvrir notre regard. Voilà la première leçon de mon maître et inspirateur, Howard Buten.
Donc créer l'alliance thérapeutique.
Créer l'alliance dans une démarche, alors que instinctivement j'ai appliqué à partir du moment où je me suis trouvée en contact avec ces grands autistes, puisque Howard Buten m'a invitée dans son centre pour jeunes autistes en 1997. Il venait de le créer, c'était à Saint-Denis. Et lui, Howard ne s'intéressait qu'aux cas lourds, comme il disait. Il avait sorti des hôpitaux psychiatriques de jeunes autistes qui étaient attachés, qui étaient abrutis de neuroleptiques surpuissants. Et je me souviens qu'il prenait les personnes et était convaincu que l'art devait avoir une place centrale dans cette prise en soins thérapeutique. Et sa méthode première, et qui était imitation et empathie, c'est quelque chose que, instinctivement, puisque je me suis trouvée projetée dans cet univers sans aucune formation, eh bien, instinctivement, j'ai appliqué auprès de ces grands autistes non-parlants, parfois très agressifs, pour lesquels je jouais.
Alors, il y a un philosophe qui s'appelle Vladimir Jankélévitch, qui a écrit un ouvrage qui s'intitule « La musique et l'ineffable ». Et il dit dans cet ouvrage que la musique est à la fois expressive et inexpressive. Ici, inexpressive, ça signifie que la musique, elle se meut sur un tout autre plan que celui des significations intentionnelles, contrairement au langage. En fait, la musique est dénuée de signification, nous dit Jankélévitch. Elle n'est pas sémiologique, en quelque sorte. Mais alors, comment la musique agit sur nous ? Vous avez 4 heures.
Oui, la musique, comme dit Bergson d'ailleurs, eh bien, elle permet de traverser ce voile des mots. La musique n'a pas besoin de mots, la musique s'en passe. Ce qui est fort intéressant, c'est que très souvent, les patients pour lesquels je joue disent « je ne sais que dire, je n'ai pas de mots ». Paradoxalement, en même temps, ils disent que la musique, ils expriment donc à travers leurs propres mots, que la musique, par une sorte de miracle, vient rencontrer leurs affects les plus profonds. Car la musique a cette capacité non verbale de s'adapter au vécu complexe, radicalement complexe, de la personne malade, mais aussi de nous tous, en superposant parfois des sensations, des émotions dans une seule et même phrase et sans mots. Combien de fois j'ai rencontré à ce jour en soins palliatifs des milliers de patients. Combien de fois m'ont-ils
des milliers
des 2400 patients, je pense, à ce jour. Eh bien, à chaque fois, j'entends cette même phrase. La musique que vous venez de jouer a exprimé parfaitement tout ce que je ressens et que les mots ne peuvent pas porter. Ça agit d'une façon si puissante que parfois la musique permet de trouver des réponses qui sont verbalisées. Ou bien parfois la musique qui est sans parole peut délivrer la parole. Et les histoires de vie de personnes qui ne trouvent pas les mots sont délivrées d'un coup, après qu'une phrase musicale ait résonné. Donc oui, elle est sans mots, en même temps elle peut appeler les mots, en même temps elle peut dire bien mieux que la complexité de ce vécu radicalement complexe.
2400 malades, c'est une véritable clinique, hein, vous avez une vraie clinique.
Oui, j'ai travaillé maintenant de nombreuses années, alors d'abord auprès des autistes, ensuite auprès des résidents atteints de démence dans un EHPAD pendant 5 ans, et maintenant depuis 14 ans dans plusieurs unités de soins palliatifs, où j'interviens chaque semaine auprès des patients en fin de vie. Et j'ai croisé beaucoup, beaucoup de fins de vie, beaucoup de personnes et de familles qui, approchant des derniers jours, des dernières heures, parfois même des dernières secondes, eh bien, ont accueilli la musique comme parfois une réponse à ce qui n'a pas de réponse.
Et pourquoi aller chercher cette clinique aux limites, hein, que sont l'autisme, que sont la fin de vie, que sont la grande dépendance ?
Je pense que la musique a une place particulièrement importante, justement, quand l'intellect n'est plus forcément sur le devant de la scène, car on n'a pas besoin de comprendre la musique pour l'éprouver. Elle s'adresse à l'intelligence du cœur, et c'est aussi pourquoi elle vient chercher chez les personnes atteintes de démence presque une parole encore intacte. Combien de fois m'est-il arrivé que les médecins me disent « donc cette patiente a des troubles cognitifs importants, elle est démente, Alzheimer ?» Et puis, en jouant, et ça nous a fait poser la question d'une forme de réordonnance de la démence à l'écoute de la musique, brusquement sort une phrase dans un magma de paroles ou une logorée incompréhensible. « Savez-vous pourquoi votre musique me touche ?»« Parce que c'est votre âme qui parle à mon âme. » Et une seconde après, la patiente a recommencé sa logorée. Et le médecin qui était présent a émis l'hypothèse que la musique, en allant chercher dans les profondeurs de notre être, même si la mémoire immédiate a disparu, même si les troubles cognitifs sont importants, peut-être fugacement réordonner pour un temps les désordres de la démence.
Dans votre ouvrage « Le pansement Schubert », on va en reparler, mais il y a un de vos patients, M. Berger, qui dit qu'il ne cherche pas à philosopher. Il cherche à sentir la vibration qu'il touche. Et la vibration relève de la physique. Vous avez parlé de l'âme. Et dans le violoncelle, si je ne m'abuse, il existe une petite pièce en bois qui s'appelle l'âme et qui fait vibrer l'instrument. Est-ce que donc, comme vous le disiez, ne serait-ce pas l'âme de votre violoncelle qui viendrait toucher l'âme de vos patients et finalement les faire vibrer ?
Oui, alors vous avez prononcé le mot le plus important probablement de toute cette démarche et de toute mon expérience, c'est le mot vibration. Il s'agit bien d'une mise en résonance entre un instrument vivant et une personne vivante, même si ce sont les dernières parcelles de vie. La vibration traverse d'abord le corps, c'est une expérience d'abord qui est corporelle, sensorielle. La vibration ensuite atteint le dit cœur ou âme, les deux termes sont prononcés par les patients, et quand ils ne peuvent pas le dire, justement, ils l'indiquent du plat de leurs mains. C'est ici, c'est une zone topologique qui est atteinte. La musique traverse le corps, même pour ceux qui sont sourds. J'ai donné récemment une suite de Bach pour une patiente sourde à 100%, qui en posant les mains sur la table de mon vieux violoncelle, eh bien, m'a dit « Merci, c'est mon premier concert ». Donc, elle a perçu la vibration qui a traversé d'abord ses pieds, son corps, pour atteindre son cœur. Ça, c'est le deuxième mot qui est prononcé par les patients. Et le troisième mot qui est directement issu de cette vibration, eh bien, c'est la vie. C'est l'éprouver de la vie. et particulièrement en soins palliatifs où les personnes viennent déposer leurs dernières heures, eh bien, quelle que soit l'avancée de la pathologie, il y a un éprouvé de vie extrêmement puissant. Je ne savais pas que c'était si vivant là, disent les patients en touchant leur cœur. Donc cet élément de vie qui rejaillit de façon très très puissante et qui est parfois décrit comme une réénergisation psychologique, psychique, comme a décrit Musan, il y a quelque chose de très très fort dans cette énergisation, on peut dire, si ce mot existe, une revigoration existentielle qui passe d'abord par la vibration du corps et puis du cœur. C'est comme s'il y avait un jaillissement entre la sensation qui traverse le corps et le sentiment généré par le cœur.
On voit bien ça dans le film d'Emmanuel Laborie, Le cri de la mouette, si je me souviens bien. C'est un Emmanuel Laborie qui est sourde, profonde, et qui, à un moment donné, danse sur de la musique, mais à travers les vibrations de la musique.
Oui. Combien de patients à l'écoute de ma musique. C'était encore l'année dernière, il y avait une ancienne danseuse qui était tout à fait immobile depuis 15 jours, qui approchait en fait du coma. Et quand j'ai joué pour elle, le Lac des Cygnes de Tchaïkovski, ça a été absolument miraculeux. Elle a commencé à danser avec ses mains. Et il y avait une médecin qui était là et qui a pu capter ces images, qui étaient de toute beauté. On avait l'impression, elle qui ne savait plus comment elle s'appelait, ni comment s'appelait sa fille, à l'écoute de la musique, il y a une vibration qui s'est emparée d'elle et qui l'a restaurée dans l'unité de sa personne.
C'est ce qui fait que votre musique est vivante. Et que malgré les plateformes numériques, malgré le tout numérique actuel qui infiltre inexorablement le secteur de la santé, avec notamment la réalité virtuelle, cette musique vivante, ici incarnée par vous, violoncelliste, et votre vieux violoncelle, comme vous dites, qui date du 18e.
Voilà, 1749.
Comment lutter face à ce tout numérique malgré tout? Est-ce que c'est juste ces vibrations qui feront la différence?
Alors, la musique vivante ne peut jamais, finalement, sera toujours supérieure à la musique enregistrée, même si la musique enregistrée a un impact tout à fait réel et objectif, et il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec elle. La musique vivante, c'est celle qui est produite au moment où elle est reçue. Et on ne peut pas faire l'économie de la présence. Et je dois dire qu'à chaque fois que je joue pour une personne, je m'adapte. La musique vivante s'adapte à la respiration du patient, s'adapte dans son timbre, dans sa mélodie, dans son répertoire, dans son tempo, dans son volume, et s'adapte de façon subtile et immédiate. Donc cette relation qui est créée entre la musicienne soignante et le patient, et parfois avec le soignant, puisqu'il s'agit bien d'un triangle avec une dynamique relationnelle très spécifique, c'est quelque chose qui est profondément unique et qui ne peut pas être remplacé par un enregistrement qui sera toujours pareil.
C'est votre définition de l'empathie.
La vibration dans...
Le lien avec le patient.
Oui, bien sûr.
Que vous avez avec le patient.
C'est un lien qui se crée et qui est très mouvant, qui se transforme à chaque seconde. Et le répertoire, mon répertoire aussi s'adapte. Et c'est ça qui est très, très, parfois même amusant. Je me souviens de cette religieuse à la maison médicale Jeanne Garnier qui me demandait tous les Ave Maria que je connaissais. Et puis au bout d'un moment, elle m'a fait s'approcher de son lit, elle m'a chuchoté « Vous n'avez pas un petit rock'n'roll ?» Et en fait, je pense que la musique enregistrée n'aurait pas pu s'adapter. Et donc, je lui ai fait un petit rock'n'roll qui correspondait profondément, en fait, son intimité la plus unique à ce moment-là.
Alors, un jour, vous êtes dans un EHPAD avec votre violoncelle. Et une résidente, qui s'appelle Madame Kessler, crie et se débat dans une chambre et rendant les soins difficiles pour les infirmières. Alors vous vous installez dans la chambre et commencez à jouer. Elle se calme et les infirmières peuvent la soigner. À la fin des soins, une des infirmières vous dit « il faudra revenir pour un pansement Schubert. En 2013, vous mettez en place une étude clinique dont l'objectif thérapeutique principal est la diminution de la douleur et de l'anxiété pendant un acte infirmier douloureux. L'étude est baptisée naturellement « pansement Schubert ». Le projet initial vise l'étude de 200 patients Schubert, de 200 pansements Schubert, donc patients effectivement, sur 3 ans. Et il s'agit de comparer une séance d'accompagnement de soins avec le violoncelle avec une autre séance sans accompagnement de soins, afin d'observer justement dans quelle mesure la contre-stimulation sensorielle que représente la musique vivante, on en a parlé, a un impact bénéfique sur le déroulement global du soin, sur la douleur et l'anxiété du patient. Alors, quels ont été les résultats de cette étude ?
Alors, cette étude a été menée pendant 5 ans, donc dans l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Sainte-Périne à Paris, et coordonnée donc par le docteur Jean-Marie Gomas et par moi-même, et par toute l'équipe soignante qui en a permis finalement la réalisation. Cette étude a pu conclure donc sur 112 soins qui étaient aussi bien des pansements mais aussi des toilettes et des ponctions et toute mobilisation complexe, c'est-à-dire mobilisation qui est potentiellement douloureuse de patients qui sont en fin de vie, nous a permis de conclure avec des paramètres cliniques précis, des échelles de douleur validées, que la douleur des patients diminuait de 10 à 50% quand le violoncelle résonnait, chantait dans la pièce au moment du soin douloureux.
Avec une différence statistiquement significative, j'imagine, puisque c'est une étude clinique.
Alors oui, c'était. Alors on a comparé 2 séances effectivement à 24 heures d'intervalle. La plupart ont été remplies. Parfois, on a eu toutes sortes de difficultés méthodologiques qui ont fait même l'objet d'une autre étude que j'ai présentée à Genève en 2017, les difficultés méthodologiques de l'étude pansement Schubert, puisque il est difficile de quantifier le non quantifiable.
C'est-à-dire
que dans les études sur la douleur, en général, pour être parfaitement objectif, alors que la douleur est une réponse émotionnelle et sensorielle, mais on essaye de ne pas mettre en avant la subjectivité. Nous, dans notre étude, la subjectivité, c'est-à-dire le ressenti du patient, mais le ressenti des soignants, le ressenti de la musicienne soignante, toutes les subjectivités conjuguées, en fait, au lieu d'être des biais méthodologiques, ont été des moteurs du soin et de l'amélioration du soin. Donc ça, c'était un point important. En comparant ces 2 séances, il y a beaucoup de points importants qui sont apparus et qui ont été analysés. Les soignants ont tous dit qu'au moment où la musique résonnait dans la pièce, ils avaient l'impression que leur soin était plus juste, je reprends leurs mots, plus harmonieux, voire plus précis.
Ah oui.
Ce qui est quand même paradoxal. On peut imaginer que quand il y a une valse, un tango, un peu de jazz, ou voire même du pop, du rock et du métal, puisque tous les répertoires sont invités dans les chambres des patients, selon les demandes, eh bien on pourrait imaginer que le geste technique va être plus imprécis. Et non, c'était tout à fait le contraire. Un autre élément très très important qui est apparu, c'était le fait que les soignants éprouvait le patient dans toutes les dimensions de son être au moment du soin douloureux. Pas uniquement faire le pansement d'un bras ou d'une jambe, mais effectivement avoir la globalité de la personne, ce qui est à la fois un lieu commun en soins palliatifs. Évidemment qu'on prend soin d'une personne avec toute son histoire, mais ce qui était intéressant là, c'est que les soignants l'éprouvaient au moment de l'acte infirmier. Et puis, un autre point qui n'est pas des moindres était que les soignants ont verbalisé le fait que, selon leurs mots, le jeudi, on s'engueule moins.
Quand vous arrivez.
Voilà, quand le violoncelle chante.
C'est ça.
Il y a vraiment une amélioration des relations au sein de l'équipe soignante et pluridisciplinaire quand la violoncelliste soignante est présente. Et ce n'est pas moi personnellement, mais c'est vraiment cet effet qu'a la musique de fédérer, de générer, ou peut-être parfois de mettre un pas de côté. On ne change pas les choses, c'est évident que la musique n'apaise pas toutes les douleurs, ne repousse pas la mort et ne guérit pas les cancers. mais elle permet parfois de changer un peu le regard qu'on porte et parfois d'une façon extrêmement profonde, de changer même radicalement l'attitude par rapport à une situation qui, elle, ne peut pas être changée.
Ça crée une sorte d'harmonie dans le service, votre venue ?
Je pense que oui, ça crée une harmonie. Et même encore, il y a 2 jours, à la maison médicale Jeanne Garnier, une des médecins totalement débordée par un ensemble de problèmes et de situations à gérer, m'a dit qu'à partir du moment où elle a entendu un tout petit bout de l'aria de Jean-Sébastien Bach que je jouais dans une chambre où j'avais laissé exprès la porte entrouverte, elle a senti en elle quelque chose qui s'est posé. Et elle a vraiment décrit ce moment comme une restauration, une unification, une forme de réparation.
Et je ne sais pas comment le dire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas, par moment, une sorte de concurrence entre vous et les soignants ? C'est-à-dire que ça mettrait presque en défaut, en échec, les soignants de ne pas arriver à soigner une patiente et du coup, vous y arrivez ?
C'est très très juste ce que vous dites. C'était un des points qui a été soulevé. Au moment de notre étude pansement Schubert, qui a quand même duré 5 ans, hein, chaque semaine, il y a eu des pansements Schubert qui ont été réalisés, ce qui demandait d'ailleurs aux soignants un travail supplémentaire, puisqu'ils devaient remplir des fiches, les comparer, etc. Il y a eu ça qui est sorti à un moment dans une des transmissions soignantes, donc qui sont ces moments d'équipe où tout est partagé. Pourquoi est-ce que quand Claire est là, notre soin serait-il meilleur ? N'est-il pas en lui-même bon, notre soin ? Et donc c'est quelque chose sur lequel on a travaillé. Il s'agissait bien sûr pas de dire, il ne s'agissait pas que leur soin n'était pas bon, mais il s'agissait que la musique, avec son aspect d'entraînement, son pouvoir relationnel, son pouvoir d'expression, son pouvoir cathartique, eh bien avait une action qui fluidifiait la situation, qui permettait une mise en relation triangulaire extrêmement forte entre le patient, le soignant, à l'œuvre et la musicienne soignante qui jouait et qui allégeait la situation. Donc ce travail a permis aux soignants de comprendre que leur soin n'était pas mauvais quand il n'y avait pas le violoncelle. Parfois il y avait même de la colère quand le violoncelle n'était pas là. Il y avait une frustration. Et ça c'est un des 9 points qui a été évoqué dans l'étude justement consacrée à l'impact du pansement Schubert sur les soignants. Il y a eu des crises, parfois je pense que c'est tout à fait naturel, des formes de jalousie. Mais je pense qu'en soins palliatifs, on essaye vraiment d'être au service de la personne pour qu'elle fasse de son mieux, de créer autour d'elle finalement ce qui va lui permettre de traverser elle-même, comme elle l'entend, ces derniers moments qui lui appartiennent.
Ça fait 2 fois que vous parlez de triangulation. C'est le triangle musical qui intervient ou...
C'est le triangle qui s'est avéré être opérationnel au moment des pansements Schubert que nous avons réalisés, et j'en réalise encore chaque semaine dans les différentes unités où j'interviens, qui est une prise de conscience que la musicienne dans cette chambre, où en principe elle n'a pas lieu d'être, eh bien n'est pas une présence incongrue. Que la musique prend place naturellement, qu'elle s'installe et qu'elle a cette capacité de créer une dynamique relationnelle nouvelle. Et il y a vraiment des améliorations entre les soignants et les patients qui peuvent échanger une fois que la musique a résonné. Il y a des améliorations de relations, mais très très nettes, entre le patient et parfois ses proches. Alors ce triangle, eh bien c'est un triangle nouveau. La musique a toujours apaisé la douleur et l'anxiété. Chez les anciens Hébreux, il n'y a que la harpe du petit berger David qui calme les crises nerveuses du roi Saül. C'est pas du tout quelque chose qui est original en soi. Ça remonte au début de notre humanité et pourtant ce traitement particulier d'une musique vivante avec une violoncelliste soignante, une musicienne soignante, au moment d'un soin douloureux, de la façon dont le protocole a été établi et on essaye de le pérenniser, ça c'est quelque chose, je pense, d'assez créatif.
Je trouve ça courageux de dire musicienne soignante, parce que c'est très... c'est en tuyau d'orgue, sans jeu de mots musical, le soin. Il y a les infirmières, les aides-soignantes, les médecins, point presque. Et vous créez un nouveau métier.
Oui, en fait, il n'y a pas que... Dans les services, par exemple, de soins palliatifs, il y a beaucoup d'autres professions, comme les socio-esthéticiennes, qui prennent soin des corps, des personnes, avec des massages, avec des soins.
Tout à fait.
Il y a aussi... Il y a toutes sortes d'autres professions. Il y a aussi des biographes hospitalières. Mmh. Il y a des art-thérapeutes qui travaillent avec la peinture, qui travaillent avec la matière. Donc, je pense qu'il y a... En fait, on peut être soignant, on peut être... partie d'une équipe pluridisciplinaire, s'asseoir dans le cercle des soignants, même si on n'est pas directement médecin ou infirmière aide-soignante.
Tout à fait. D'ailleurs, Paul Ricoeur disait, enfin je le paraphrase, mais en le paraphrasant, je dirais que le soin n'est pas forcément toujours là où il s'exhibe. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des soignants qui ne sont pas en blouse blanche et qui font partie du soin. Et je pense notamment aux hôtesses d'accueil. Mm-hmm. Quand elle vous accueille avec un sourire, c'est déjà le début du processus de soins.
Bien sûr.
Alors, vous rencontrez des patients en soins palliatifs, hein, vous l'avez dit. Alors, il se trouve que je suis philosophe et psychanalyste. Et je trouve qu'il y a une résonance entre l'accompagnement des patients en fin de vie et la musique. La musique est faite de rythme et de tempo. Elle fait donc appel au temps. Et plus particulièrement à la fuite du temps. Elle rejoue inconsciemment les pulsions de vie et de mort, hein, c'est-à-dire l'Eros et le Thanatos, E-E-T ou E-E-S-T, hein, parce que Eros est aussi Thanatos. Donc elle dure le temps d'un morceau, on est dans la pulsion de vie, dans cet Eros, puis s'achève. Hein, on est dans cette pulsion de mort, dans ce Thanatos. Et à travers le temps musical, qu'est-ce que vous percevez de ce rapport au temps chez les malades que vous accompagnez ?
Alors, le rapport au temps est...
Question vertigineuse.
Bien sûr.
Vertigineuse.
Je peux partager certaines de mes expériences et de mes idées par rapport à ça. Le temps est revisité lors du moment musical. On sort de ce temps quantitatif, le temps du sablier, et on rentre dans une durée qui est éprouvée, qui est vécue.
Alors, du Bergson.
Complètement. Hein, c'est du Bergson, mais c'est en fait l'expérience... que j'ai depuis toutes ces années. Et je dirais même que ce temps vécu est verbalisé parfois comme éternel. Mmh. C'est un moment d'éternité, verbalise les patients qui ne sont pas forcément enclins à utiliser ces mots. Je me souviens de ce... C'était un camionneur qui disait « Mais je ne comprends pas pourquoi, quand vous jouez, j'ai envie de parler de mon âme. J'ai jamais utilisé ce mot, disait-il, et j'ai envie de parler d'éternité. » Donc il y a quelque chose dans ce temps unique, suspendu, en lien avec la mélodie, qui fait que la saveur du présent est goûtée. C'est une saveur existentielle qui appelle à la fois les souvenirs anciens, qui réémergent comme des bulles de savon de façon très vivante, et qui appelle aussi l'aune d'un futur meilleur. Et c'est comme si à la fois le passé, l'avenir et le présent étaient liés en un temps qui est éprouvé et qualifié d'unique, qui est toujours presque accompagné par les larmes. Presque toujours les patients pleurent ou les proches, les larmes qui sont qualifiées de consolantes, de nettoyantes, de purifiantes, des larmes vraiment cathartiques, hein, le pouvoir cathartique de l'art, de purgation des émotions et des passions. Et ce qui est fort intéressant, c'est que quand j'ai fait l'étude sur les paroles des patients, je me suis rendu compte que, après le temps musical, quand les patients essayent de verbaliser ce qu'ils ont éprouvé, eh bien, ils sont passés du temps imparfait au temps présent, grammaticalement parlant. Mmh. « Oh, c'était bon, me dit ce patient quand je lui joue le tango ou le passo-doble. » c'était bon, j'étais pas mal, moi. » Et puis, au fur et à mesure que la musique s'écoule, je l'entends dire « c'est bon, c'est bon ». Et c'est très très frappant parce que ça arrive, ça m'est arrivé des centaines de fois. Donc du passé qui est quelque chose finalement de figé, on revient à un moment, et c'est ce temps musical qui le permet d'un éprouvé du temps. Et puis, il y a aussi cette unité du temps. On a l'impression que la maladie morcelle fragmente, explose. Et le temps musical a un pouvoir d'unification temporelle, vraiment quelque chose qui rassemble Et ça, c'est quelque chose qui aussi parfois est verbalisé par les patients.
Donc en fait, on passe d'un temps chronos, linéaire, c'est-à-dire qu'on vit, on meurt hein, en quelque sorte, à un instant.
Oui, c'est en tout cas l'expérience du présent qui est verbalisée, l'instant qui est jugé comme singulier, opportun, juste.
Carpe diem.
Oui, et c'est un kairos. C'est le kairos.
C'est le kairos, oui, des Grecs.
Vraiment, absolument, c'est le temps juste, celui qui tend vers la perfection. Et combien de fois les patients ou les familles m'ont dit « Ah, c'était juste le bon moment ».
C'est ça le kairos. C'est le temps qu'il faut saisir à
le
ce moment-là. Temps,
exactement. Le. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ce passé qui surgit avec sa vague de souvenirs, ce concentré de souvenirs qui est qualifié parfois comme un vrai remue-ménage, comme une plus fort que la Madeleine de Proust, c'est un temps en fait qui est envahi par l'émotion. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement beau. C'est comme une auberge, c'est un port abrité dans l'épreuve. C'est un temps qui donne le sentiment que ça vaut le coup. Ça permet de pas démissionner. Et ça ouvre aussi à quelque chose qui est plein d'espoir. Et ça, c'est le paradoxe. Et d'ailleurs, c'est le mot qui réapparaît le plus en numéro 4 dans mon étude que j'ai menée avec Donatien Mallet, avec le professeur Donatien Mallet, qui est professeur de médecine, mais également qui est philosophe. C'est cette idée absolument étonnante que j'ai parlé du fait que c'était d'abord la vibration, puis c'était le cœur, et puis c'était la vie qui était rééprouvée. Et le quatrième mot, bien, c'est la joie. C'est comme si cette joie résiduelle, dans l'expérience d'un temps opportun, d'un temps juste, était rééprouvée. Je ne savais pas, m'a dit ce patient le mois dernier, que je pouvais éprouver tant de joie.
Et la joie, c'est pas le plaisir, hein, c'est un effort, j'ai envie de dire, la joie. C'est-à-dire qu'il faut aller la chercher.
Oui,
quand même.
C'est un don. Je ne sais pas si c'est un effort, mais c'est quelque chose qui d'abord est partagé. Et ensuite qui est lié à une revigoration et à une saveur. Une saveur vraiment au sens, au vrai sens du terme. Combien de fois les patients, même les patients atteints de démence, me disaient « je goûte ». On est dans le goût, dans la saveur, dans le temps présent. Et c'est une expérience qui est très, très belle et qui est recherchée. Je me souviens de ce patient qui disait, en fait, ce que vous venez de me donner, je l'éprouve maintenant, mais je continuerai à l'éprouver demain, après-demain et jusqu'à ma mort. Comme quelque chose qui serait de l'ordre de l'éternel, et qu'on pouvait en quelque sorte réappeler. Et ça me fait dire peut-être l'essentiel de toute cette démarche qu'est le pansement Schubert, ou la musique qui prend soin, ou l'art qui vient à la rencontre de la médecine, c'est qu'il s'adresse à la partie saine, à la partie vivante, à la partie non malade de la personne malade.
Ah bon ?
Oui. Je pense que la musique qui chante, c'est pour ça qu'elle ne guérit pas la pathologie, mais elle vient faire résonner, rejoindre une partie non altérée comme un lieu nodal, unique, qui est éprouvé comme tel, qui est verbalisé de différentes façons, qui est montré parfois, et qui est éprouvé comme quelque chose d'inaltérable.
Et on voit bien dans votre répertoire musical que vous rencontrez dans ce répertoire l'alternance cyclique justement de joie et de tristesse, qui caractérise bien, selon Melanie Klein, le deuil, c'est-à-dire l'élaboration d'une position dépressive qui va être basée sur l'ambivalence des sentiments. Alors la musique comme thérapeutique, comme apaisement des patients, serait-elle alors celle du travail de deuil, donc d'acceptation de la mort, si tant est qu'elle soit possible, cette acceptation? Première question. Deuxième question, inversement, je fais l'antithèse. Est-ce que cela pourrait-il être également un moment de regain de vitalité ou même un moment suspendu, comme vous le disiez, mais qui soit volé à la maladie ou à la grande dépendance, justement?
Alors, je peux, pour répondre à votre question, je vais vous raconter une de mes rencontres il y a quelques mois. qui, je pense qu'il va répondre peut-être même doublement à, aux deux questions. Je rentre dans une chambre, il y a une famille en grande détresse, tout le monde hurle. 7 personnes dans la pièce autour d'un patient vraiment en toute fin de vie. C'est une famille qui est d'origine juive, de religion juive. Et quand j'arrive, 2 filles, de chaque côté de leur père, le secouent comme un prunier en lui hurlant dans les oreilles « Est-ce que tu nous aimes ?» Donc je m'assieds, je joue pour lui, donc des prières, des chants juifs. Elles relâchent leur père, elles s'assiedent, tout le monde s'assied, tout le monde arrête de hurler. Et à ce moment-là, ils se rendent compte que leur père, qui est vraiment dans le coma, en phase agonique, respire différemment. Ça, c'est une chose très importante, c'est que la vibration musicale modifie les paramètres de la respiration et atteste ainsi de la présence au monde quand justement il n'y a plus de mots. Ce qui fait que quand je finis mon morceau, toutes les personnes se tournent vers moi comme un seul homme en disant « Continuez !» Il faisait un lien entre ce regain de souffle de leur père qui était vraiment en train de partir et la musique qui résonnait dans la pièce. Cette amplification de la respiration, c'est vraiment quelque chose que j'observe dans la plupart de mes rencontres avec les patients non conscients, qu'ils soient dans le coma ou qu'ils soient sédatés. J'ai joué pendant 1 heure, ils ne m'ont pas laissé m'arrêter. Et au bout 1 heure, j'ai annoncé que j'allais partir. La famille était parfaitement calme. Il y avait vraiment une ambiance profondément paisible. Et au moment où je suis sortie de la pièce, une des sœurs a dit à l'autre, celle donc qui avait secoué leur papa, cette phrase incroyable. Elle lui a dit « Regarde, regarde-le, il nous aime ». Et quand je suis sortie de la chambre, 2 minutes après, le patient est décédé. Et la famille, quelques temps après, sont sortis de la chambre. Au lieu de sortir en hurlant leur désespoir, ils ont été voir les médecins et les infirmières en leur disant « Merci, on a pu lui dire au revoir ». Donc, dans cette rencontre extraordinaire qui a beaucoup marqué aussi les équipes soignantes et la famille en question et moi-même, il y a eu par cette résonance vivante de la musique auprès d'une personne qui est en train de passer. La mort, c'est vrai, n'est pas pensable, comme dit Yankelevitch, mais elle n'est. On ne sait pas, on est devant un mystère. Mais ce qui est sûr, c'est que la vie est encore là, que la fin de vie, c'est encore la vie, et que quand la musique vient appeler la vie à se manifester dans une respiration qui devient ample, et quand, par un processus mystérieux, la musique qui a résonné permet une réponse, alors qu'aucun mot n'a été prononcé, regarde, il nous aime. On est, je pense, dans vraiment le mystère que peut ouvrir cette présence de la musique, mais aussi de la beauté et de la vie et de la présence vibratoire, j'entends vie par vibration, auprès de tous ceux qui sont en présence, confrontés aux situations à haute densité humaine, aux situations auxquelles on ne peut pas se soustraire. C'est la seule chose dont on est sûr, c'est qu'on va nous aussi un jour être confrontés à la mort, mais on n'en sait rien. On n'en sait pas plus que ça, par contre, c'est sûr que ça aura lieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on éprouve et que parfois la musique non pas vient apporter une réponse signifiante, mais une réponse éprouvée, une réponse qui permet de continuer à vivre.
Mais vivant jusqu'à la mort, comme disait Ricoeur.
Oui, absolument.
Et alors, y aurait-il des musiques qui accepteraient la condition humaine du vivre et du mourir et celles qui la refuseraient, qui la nieraient? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire que les musiques que vous choisissez dans votre répertoire, eh bien, il y aurait des espèces de schémas de détente et de tension, d'intégration et de désintégration, comme vous disiez tout à l'heure, de vie et de mort en fonction des patients que vous accompagnez?
Je pense que le répertoire, le choix de la musique est lié vraiment à l'intimité profonde de chacun.
C'est ça.
Et justement au moment, au kairos.
Ouais.
Ça peut être un choix de se relier à ses racines, mais au contraire, ça peut être un choix de s'éloigner de ce qui est connu. Combien de fois les personnes me demandent quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu?
C'est eux qui choisissent.
Alors, ceux qui peuvent s'exprimer, parfois ils ne se souviennent plus des noms. Ouais. Ça peut être un type d'émotion qui est recherché, un besoin, une attirance vers une tonalité émotionnelle. Ce n'est pas forcément le nom d'une œuvre, quelque chose de doux, une musique gaie. Ça peut être aussi un affect qui peut être métaphorique. Je voudrais quelque chose qui monte, je voudrais quelque chose qui est lumineux, quelque chose qui vole. Parfois, c'est juste se reposer dans le choix de la musicienne soignante. Ce que vous choisirez sera bon pour moi. Donc aussi une confiance, un abandon. Quand on se souvient de ses racines, eh bien, ça permet de se relier à son enfance, se relier à ce qui est fondamental et originel. Mais parfois, c'est insupportable. C'est émotionnellement trop puissant et donc... c'est au contraire quelque chose qui est évité.
Oui.
Je ne veux pas retourner là-bas, disent certains patients. Ça me fait remonter les... D'accord. En fait, cette capacité qu'a la musique et le répertoire choisi de faire remonter, mais de façon mêlée, tous les affects. Il arrive parfois que certains patients me demandent « Vous ne pouvez pas faire un peu le tri, là ? Il y a tout qui remonte en même temps. » c'est extraordinaire. Hein. Donc, c'est vraiment toujours l'expression d'un désir singulier qui met en mouvement le patient.
Ouais.
Et ce choix, ça rend à la fois dynamique, disponible, et ça ouvre vraiment une expérience sensorielle choisie par celui qui peut s'exprimer ou par la famille.
Ce qui voudrait peut-être dire que le pansement Schubert serait alors un véritable pharmacon. C'est-à-dire qu'il peut aussi bien guérir qu'être toxique. Et du coup, capable de faire du mal si le choix musical n'est pas adapté au patient que vous avez en face.
Oui, je pense qu'on est vraiment dans une alliance thérapeutique et que le but, l'objectif, c'est qu'il y ait un mieux-être.
D'accord.
Donc, potentiellement, absolument, une musique qui peut faire du bien, inversement, peut faire du mal, peut entraîner dans une spirale... Mais évidemment, l'adaptabilité de celui qui va trouver la musique la mieux pour le moment choisi, eh bien, c'est ça ce sont les compétences qui sont requises pour que justement il n'y ait pas cette spirale, cette boucle qui va enfoncer. À vrai dire, j'ai peu d'expériences négatives. Si la musique est jugée comme insupportable, eh bien, elle s'arrête. Parfois, les personnes préfèrent le silence. Parce que le silence est habité de musique. Parfois, certaines disent « Mais le silence qui succède votre musique est encore plus beau que la musique. » Et puis d'autres, au contraire, disent « Moi, je ne veux pas de musique, mais je veux bien parler. » Et dans cette conversation, souvent, émerge quelque chose d'étonnant, qui est verbalisé parfois, comme cette patiente qui me disait « Mais en fait, on est en train de faire de la musique. » Donc la parole, l'échange comme une résonance qui est d'ordre musical.
Donc si je comprends bien, l'exercice c'est de créer l'alliance thérapeutique dans un premier temps, et elle se travaille, cette alliance thérapeutique, elle n'est pas donnée, pour ensuite essayer de passer à une thérapeutique de l'alliance finalement.
Oui, il faut effectivement prendre, accueillir toutes ces sensations, ces émotions qui ne sont pas uniques, elles sont plurielles, elles sont très complexes, elles ont des interactions dynamiques. En fait, chaque intonation de la musique se prolonge en quelque sorte par des expériences qui sont corporelles, qui sont cognitives. Parfois, les gens disent « j'ai des tremblements partout, de joie, de souvenir, j'ai plus de mains pour applaudir, mais mon cœur applaudit ». C'est-à-dire qu'il y a comme une interpénétration à la fois du corps et du cœur. Et donc, effectivement... il y a un travail qui est d'ordre thérapeutique, qui fait que je ne suis pas une concertiste à l'hôpital, pas une artiste, je ne suis pas une animatrice.
Vous n'êtes pas là pour faire un divertissement.
Je ne suis pas dans le divertissement, dans l'interlude consolant et agréable, même si c'est agréable et même si c'est consolant.
C'est important de le dire, je pense.
Oui, c'est vraiment une posture particulière qui demande à la fois des compétences. Pourtant, moi-même, j'ai travaillé pendant de nombreuses années sans avoir aucune formation. Je pense que les compétences ne sont pas forcément totalement liées à la formation, même si c'est important de se former. Il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'intuition et de l'adaptabilité à ce qui se présente, qui est la base de l'accompagnement. Hein, on n'est pas dans la maîtrise, on est à la fois, on a un objectif thérapeutique et en même temps, on reste accompagnant, on marche à côté.
Mais quand même, la base du soin, et vous l'avez dit, c'est l'empathie, c'est-à-dire la capacité à comprendre ce que vivent les patients. Et on entend dans votre musique cette capacité à rentrer en relation, en résonance, en lien avec le patient, c'est-à-dire à être empathique. Mais dans la clinique que vous avez choisie, c'est-à-dire cette clinique aux extrêmes, hein, à forte densité, comme vous avez dit tout à l'heure, cette clinique qui est la fin de vie, la grande dépendance, l'handicap lourd, eh bien, le risque consisterait à avoir peut-être un peu trop d'empathie qui pourrait amener une forme de sympathie et donc de souffrir avec, non plus comprendre, mais souffrir avec trop de compassion pour les patients. Et est-ce que vous mesurez ce risque, puisque vous êtes musicienne soignante? Et les soignants sont des fois embarqués dans des histoires de patients, en fait, hein, dans des situations cliniques. Et comment vous protégez-vous de ce risque?
Oui, je pense que tout le monde est embarqué dans toute relation et dans toute rencontre.
C'est la base de l'empathie.
C'est la base de l'empathie. Mmh. Après, pour trouver cette juste, je dirais pas cette juste distance, mais plutôt cette juste présence qui va fonder la posture et permettre de ne pas s'assimiler à la souffrance de l'autre, c'est tout un travail, je pense. C'est un travail qui est à chaque fois renouvelé, qui peut être aidé et accompagné par ce qu'on a en soins palliatifs, qui sont les groupes de parole où on vient déposer en fait certaines prises en soins qui peuvent être lourdes, et en étant déposées comme parole dans un collectif en fait sont allégées, sont en quelque sorte allégées, je dirais. Donc ça, c'est un travail. On ne s'assimile pas. On n'est pas l'épouse, la fille ou la mère de celui qui part. Oui. Et la musique, évidemment, qui appelle l'émotion, qui travaille avec l'émotion, on peut effectivement partir. En tout cas, les familles, les patients, les soignants sont souvent appelés, happés par leur émotion. Mais il y a vraiment un phénomène cathartique. Et très souvent, j'assiste à des grandes crises de larmes qui sont parfois très impressionnantes, où parfois certaines personnes deviennent des sanglots. Ne pleurent pas, mais deviennent sanglots. J'ai vu des personnes qui tombaient par terre en pleurant. Mais je sais par mon expérience et par toutes ces années qu'il faut traverser ce moment où le flot salé se répand, ce trop-plein, parce qu'après, il y a un apaisement. C'est vraiment de l'ordre cathartique, où quelque chose s'allège, vraiment comme à la sortie de l'orage, quand le ciel s'éclaircit à nouveau. Et je peux dire que c'est quelque chose qui arrive dans la plupart des cas. Et que non seulement c'est un allègement donc émotionnel qu'il faut traverser, quelque part qu'il faut supporter, et qui donne parfois des réponses. Quand le flot cathartique des larmes est particulièrement puissant, en général, les personnes après ont des réponses. C'était par exemple ce père et cet époux qui ne s'autorisait jamais à pleurer, qui ne voulait justement pas, qui s'était coupé, qui ne voulait plus rien sentir. Et après ce flot, je dirais que c'était un torrent, en fait, qui jaillissait des larmes à l'écoute d'un morceau particulier qui était justement celui qu'il avait lié à sa femme au tout début de leur rencontre, que j'ai fait par hasard, par intuition. Il a dit « J'ai compris en écoutant cette musique que ma femme était malade. » Elle était quand même dans le coma depuis 5 jours. « J'ai compris qu'elle allait partir. » Et il a même dit « Je lui ai donné l'autorisation de partir. » Donc il y a un processus psychique qui s'engage, donc qu'il faut peut-être traverser. Je pense qu'on est à l'abri de rien, qu'on est tous dans notre extrême vulnérabilité, confrontés à la souffrance, en résonance, en écho, et que ce chemin, ce moment, cet endroit qui n'est jamais atteint, eh bien c'est l'objet même de notre travail, de notre attention.
Ouais, c'est ça. Je crois qu'on est tous embarqués. Comme je dis toujours, quand je suis en supervision avec des soignants, la base du soin, c'est de comprendre les gens, c'est-à-dire de se mouiller, de descendre dans la piscine. Mais il faut toujours garder une main accrochée au bord. Donc de se faire embarquer, c'est pas grave, mais le jour où on lâche la main et qu'on s'en rend pas compte, là, ça devient embêtant. Et je pense que ce qui vous protège, c'est votre triangulation, me semble-t-il. Ce triangle dans lequel il y a un soignant qui est toujours là et qui va jouer ce rôle de tiers séparateur quand la fusion, la confusion risque d'être là, parce qu'elle est là. Et du coup, elle vous, ce tiers vous protège. Et donc, ce triangle me paraît vraiment hyper important. Oui.
À vrai dire, le soignant n'est pas toujours là.
Alors, oui, mais il est quand même là.
Il n'est pas loin.
Oui.
Ouais, tout à fait. Ce qui, je pense, aussi me protège, c'est la gratification qui jaillit de cette démarche. C'est le fait que quand je sors de la chambre, eh bien, même s'il n'y a pas de traces tangibles, visibles, physiques, je ne laisse pas de traces matérielles, la musique, par définition, voilà, n'a pas cette trace physique. Et pourtant, c'est très, très différent. Et ça, c'est quelque chose que recueillent les soignants, qui permet aussi d'avoir, comme vous dites, un retour et d'avoir une forme d'objectivation. Mais c'est surtout la gratitude, la gratification sensorielle, en fait, qui rejaillit sur moi et qui me permet de recevoir, je dirais, largement plus que ce que je donne.
Quelle a été votre plus belle réussite en tant que musicienne soignante, Claire?
Je ne sais pas si on peut parler en termes de réussite, parce qu'on est dans la performance, et en fait, mon travail n'est pas lié à la performance. Il y a des dizaines et des centaines de rencontres qui sont des formes de miracles, au sens où, qu'est-ce qui reste? Je reviens à Christian Bobin, que j'aime beaucoup, et qui a eu la grâce aussi d'aimer le pansement Schubert. Oui, il a lu et il m'a écrit à deux reprises.
D'accord.
Et qui avait un regard poétique, je dirais, sur la vie. Et encore plus qu'être poète, ça, c'était une profession. Mais lui disait qu'il n'aimait pas les genres. Il aimait quand la vie elle-même, le regard qu'on y pose était poétique.
C'est ça. Et il disait de mémoire que habiter poétiquement le monde, c'est habiter humainement le monde.
Tout à fait.
Dans le plâtrier siffleur.
Voilà, exactement. Et quand il pose la question « Que reste-t-il de l'unique nuit que fut nos vies ?» C'est vraiment cette question qui est posée toujours, que se posent les patients, quand ils retournent un regard vers la vie, qui relisent en quelque sorte, qui essaient de donner sens. Il répond, Christian Bobin, et je peux vraiment répondre avec lui, puis c'est mon expérience. Il répond, il reste ce que nous aurons aimé, il s'agit bien d'amour, et ce dont nous nous serons émerveillés, il s'agit bien de beauté. Et donc, je pense que c'est un peu les ingrédients qui permettent de donner sens, en tout cas dans mon expérience, à la fois à la musique que je joue, mais aussi tout simplement à la vie en général.
Alors, si on ne peut pas parler de réussite, est-ce qu'on peut parler d'échec?
Non, mais c'est-à-dire, je ne juge pas en termes de réussite. Maintenant, il y a beaucoup de rencontres que je peux partager et qui sont en fait fondatrices, qui sont transformatrices. Il y en a tellement que je ne saurais laquelle choisir. Cette restauration de l'estime de soi... Je me souviens en particulier en EHPAD, quand j'intervenais auprès des patients atteints de démence, cette femme qui avait été interdite de cantine, car elle enfonçait sa fourchette dans la main des autres résidents, et elle passait toute sa journée à crier, à pleurer et à dire qu'elle voulait mourir. Et c'est en apprenant qu'elle avait eu la Légion d'honneur que j'ai entrepris un travail qui était d'abord musical, puisque je jouais pour elle, mais qui était ensuite pictural, et puis après qui est devenu autobiographique. J'ai décidé, avec elle, main dans la main, de peindre sa Légion d'honneur. Donc pendant un an, main dans la main, elle qui n'avait jamais tenu un pinceau, on a commencé à mettre en forme, en couleur. En réalité, ça, sa fierté, son rempart contre le monde. Et on a organisé, au bout d'un an, quand la peinture était finie, une exposition avec un vernissage qui a rassemblé plus de 100 personnes, où il n'y avait qu'un seul tableau. Et ce jour-là, je me souviens qu'elle est arrivée avec une aide-soignante dans sa chaise roulante, et elle faisait un petit signe de la main, comme la reine d'Angleterre, avec une immense fierté sur ses traits, une restauration de l'estime d'elle-même, qui lui a fait dire que maintenant, eh bien, plus personne ne la critiquerait car il savait qui elle était. Eh bien, ce jour-là, j'ai vraiment pris conscience que ce goût de vivre avait été restauré grâce à la musique que je lui jouais et grâce à cette beauté qui avait pu être exprimée à travers sa propre fierté. C'est une de mes... La diminution de l'agressivité, le fait qu'elle réintègre la cantine le soir même... le constat que son agressivité avait diminué et qu'elle pouvait de nouveau être en société, je pense que c'était, alors puisque on parle de réussite, c'était une des réussites les plus importantes.
Et qu'auriez-vous envie de dire à un jeune ou une jeune musicienne qui voudrait faire musicien ou musicienne soignante aujourd'hui ?
Mais j'aurais envie de leur dire, allez-y, foncez, n'ayez pas peur. Je pense que tout soignant peut bénéficier d'une approche artistique, quelle qu'elle soit, et que tout musicien peut bénéficier d'une approche soignante, de prendre soin. Je pense même que c'est indispensable. Ça ne veut pas dire que chaque musicien doit devenir musicien soignant, que chaque musicien doit travailler dans un service de soins. Mais je pense que cette part en nous qui va... ouvrir ses possibilités, ses compétences à autre chose que sa propre réussite ou à autre chose que le public d'une salle de concert, en ce qui concerne les musiciens, c'est une richesse infinie. J'ai beaucoup, beaucoup de musiciens, de jeunes musiciens qui me contactent et qui sont désireux, mais qui ne savent pas forcément comment s'y prendre, d'offrir en quelque sorte leur musique... À des publics empêchés, comme on dit. Je ne sais pas si c'est un bon terme, parce que je pense qu'ils ne sont pas empêchés, en tout cas peut-être empêchés d'aller dans les salles de concert. Plus le temps avance, finalement, moins les salles de concert me semblent intéressantes. Mais pour les soignants, c'est la même chose. La présence de la musique dans leur vie apporte quelque chose d'inestimable et les restaure en eux-mêmes. C'est vraiment cette expérience de l'unité interne.
Et si vous aviez deux livres et deux musiques à nous conseiller, lesquelles nous conseilleriez-vous ? Et éventuellement, Claire, est-ce que vous accepteriez de nous jouer une ou deux musiques pour nous ? Alors d'abord les livres.
Alors moi j'aime beaucoup Christian Bobin.
Oui.
Je trouve que L'homme joie, par exemple, est un livre qui m'a beaucoup inspirée, où la présence pure... où il relate l'accompagnement de son père atteint de la maladie d'Alzheimer dans un EHPAD, où il dit que c'était tous des morts vivants, mais qu'en fait, il parlait des soignants. Il ne parlait pas des résidents qui, eux, dit-il, la banalité était soulevée au-dessus d'elle-même. Donc, accéder à cet état poétique, à cet état, en fait, que l'art nous permet d'entrevoir, qui est probablement le seul endroit où il faudrait que nous puissions évoluer. Donc Christian Bobin, L'homme joie, la présence pure, ce sont deux joyaux qui m'ont inspiré depuis toujours. Et je peux dire que c'était une grande joie quand Christian Bobin a parlé de mon violoncelle comme un cœur en bois qui chante. Et de ce mouvement vers les personnes qui est en fait un mouvement de joie pure. Quant aux musiques, Schubert a une place particulière dans mon cœur. C'est vrai que le magnifique trio de Schubert, qui est à l'origine du pansement Schubert, est quelque chose que j'ai déjà beaucoup joué dans ma vie. Donc c'est un trio. Je n'en jouais qu'un extrait, et je n'en joue qu'un extrait quand je suis auprès des patients. Mais c'est une musique profondément humaine. Et Schubert a cette capacité de nous appeler dans des émotions les plus humbles, je dirais. Schubert est le promeneur solitaire. Schubert est celui qui parle sans cesse de la mort comme un promeneur esselé. Il y a une solitude infinie et en même temps, il y a une sollicitude infinie. Mmh. Et je pense que c'est quelque chose que les patients ressentent quand je leur joue Schubert. Moi, j'aime beaucoup la musique romantique. Je joue souvent du Bach. L'aria de la suite en ré de Jean-Sébastien Bach est quelque chose qui est souvent demandé par les patients et qui, chaque fois qu'elle résonne dans une chambre, appelle plus de clarté.
Et alors, qu'est-ce que vous pourriez nous jouer ?
Je pourrais vous jouer cet extrait du trio opus 100 de Franz Schubert, qui a été celui qui a permis de faire naître le pansement Schubert.
Alors je vous laisse vous installer et on vous écoute. Merci Claire pour ce moment suspendu, ce moment de pure émotion même, je dirais, une émotion qui s'entend et qui se voit même dans votre façon de jouer. Alors évidemment qu'on ne la voit pas aujourd'hui dans ce podcast, mais quand je vous observe, c'est comme si vous ne faisiez qu'un avec votre violoncelle. Alors maintenant, j'ai la lourde tâche de conclure cet entretien, de sortir de ce moment suspendu. Alors je vais essayer de conclure avec Jean Kelevich, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Vladimir Jean Kelevich nous dit que notre parole sur la musique relève non de l'indicible, mais de l'ineffable. Là où l'indicible nous confronte à ce dont il n'y a pas de parole possible, telle la mort pour le mort, eh bien l'ineffable est ce dont aucune parole ne peut prétendre venir à bout, ce dont il y a toujours à dire. L'ineffable rend donc paradoxalement bavard ce que nous avons probablement été aujourd'hui. Alors Claire, un grand merci. Vraiment, je vous remercie pour cette riche et belle conversation et merci également pour votre hospitalité narrative, comme dirait Paul Ricoeur.
Merci à vous pour vos questions et votre présence.